Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, ou should I say bonjour, hi? Écoutez, vous vous souvenez que la semaine dernière, à l'émission de Pierre Nantel, j'avais révélé que la présidente du Parti libéral au Québec, Chelsea Craig, avait tweeté, gazouillé à plusieurs reprises à propos de la loi 101 en disant que c'était une loi opprimante, oppressive, elle écrivait en anglais, que c'était une loi qui avait nui, qui avait ruiné, détruit l'éducation en anglais au Québec, et ça avait vraiment fait boule de neige jusqu'à Ottawa, au Parlement. Les partis d'opposition ont talonné le gouvernement Trudeau à propos des tweets de Mme Chelsea Craig. Ben écoutez, ce matin, à l'émission de Pierre Nantel, j'ai récidivé, parce que Mme Craig elle-même a récidivé, c'est que le 13 novembre, elle a apposé un petit j'aime sur deux tweets différents de gens qui critiquaient le reportage de mes collègues du Journal de Montréal sur le fait que c'était, dans beaucoup de commerces du centre-ville de Montréal, difficile, voire impossible de se faire servir en anglais. Or, Mme Craig a, le 13 novembre, mis un petit pouce, un petit cœur affectueux sur des tweets ridiculisant cette enquête-là et disant, ben oui, c'est normal qu'on soit reçu en anglais au centre-ville, c'est la langue de la business. Et dans ces mêmes tweets, on disait que le Journal de Montréal est un journal intolérant et qui faisait du fake news. Ben, pouvez-vous croire qu'après que j'ai fait ma chronique avec Pierre Nantel ce matin, Mme Craig a fermé son compte Twitter. Elle a fermé, la présidente du Parti libéral au Québec, le parti de Justin Trudeau, elle a fermé son compte Twitter. J'imagine que ça devenait juste trop gênant parce que en fouillant dans son compte, on trouvait toutes sortes de choses qui viennent complètement en contradiction avec la position officielle du Parti libéral. Parce que rappelez-vous, dans son discours du trône, Justin Trudeau a dit à quel point il allait se battre pour, justement, le français au Québec. À quel point Mélanie Joly, qui est ministre aux langues officielles, dit « Non, 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 on est au bord d'une crise linguistique, il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose. » Puis pendant ce temps-là, t'as la présidente du Parti libéral au Québec qui délire complètement sur Twitter en s'en prenant à la loi 101, puis en s'en prenant au Journal de Montréal, puis en ridiculisant le reportage que mes collègues ont fait. Alors, quand j'ai vu que Mme Chelsea Craig, présidente du Parti libéral au Québec, avait fermé son compte Twitter, ben j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, on a l'impression qu'il n'y a pas une journée qui passe où les Québécois se font pas traiter de xénophobes, de racistes, d'intolérants, racistes systémiques, intolérants systémiques, xénophobes systémiques. Êtes-vous tanné? En tout cas, ça fait plusieurs chroniques dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, où des commentateurs se montrent un peu tannés, en tout cas, de cette attitude. Joseph Facal fait partie de ces commentateurs-là. Il est avec nous tous les jeudis. Bonjour, Joseph.
Bonjour, Sophie.
C'est d'autant plus intéressant dans ton cas, Joseph, que toi-même, tu es un fils de l'immigration. T'es pas un Québécois pur laine. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit toi qui prenne la plume pour dire à un moment donné, assez, c'est assez.
Oui, ben en fait, c'est drôle que tu dis ça. Effectivement, je suis pas un pur laine. Et pour moi, Sophie, en 2020, ça reste un sujet d'incompréhension, de trouble et de tristesse de voir des jeunes nés ici, de parents issus de l'immigration, et ce jeune qui a 20 ans ou 25 ans dit « je suis Libanais, je suis grec », parce que ses parents, eux, venaient de ce pays. Mm-hmm. Alors que moi, que veux-tu, c'est peut-être un gars qui approche la soixantaine qui parle, j'ai toujours dit que je n'étais pas un Uruguayen, j'étais un Québécois avec un drôle de nom, tout simplement. Et pour ce qui est des habitudes qui me sont restées, n'est-ce pas, de mon pays d'origine, ben je les vis dans ma vie privée, sans en faire une espèce de porte-étendard. Mais ce que nous vivons, effectivement, c'est une espèce de renversement du devoir d'intégration. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Québec, il allait de soi que moi et ma famille, on laissait au vestiaire de l'entrée nos habitudes, si tu veux, les moins adaptées au Québec, et qu'on essayait de se fondre, ce qui ne veut pas dire se renier. Aujourd'hui, c'est le contraire. On fait tout, évidemment, pour que le nouvel arrivant puisse rester comme dans son pays d'origine, et c'est à la société d'accueil, qui n'est pas obligée d'accueillir, de se décentrer, de se redéfinir, pratiquement de se renier, et il y en a certains qui appellent ça du progrès. Et de surcroît, quand cette société qui ouvre ses bras ose dire son malaise, on lui fait un procès d'intention. Alors évidemment, ça suppose deux choses. D'une part, évidemment, l'incroyable arrogance de ces gens qui font un procès perpétuel au Québec, mais aussi, plus troublant, ça pose aussi la question de notre capacité, de notre réservoir de dignité à dire assez, c'est assez, et à rebondir. Rebondir sans hostilité, mais avec fermeté.
Oui, c'est ça, parce que si moi, j'écris une chronique, je m'appelle Sophie Durocher, bon, je suis pas née ici au Québec, mais ça, tout le monde s'en fout, mais si moi, Sophie Durocher, j'écris une chronique où je dis à Adib Al-Khalidé, ben écoute, quand t'es allé à Tout le monde en parle, mon pote, c'était pas extraordinaire le procès que t'as fait de la télévision québécoise et des médias québécois, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais toi, de quoi tu parles, t'es pas issu de l'immigration. Quand toi, Joseph, tu parles sur le même sujet, ça a complètement une coloration, c'est le cas de le dire, différente, parce que on peut pas t'accuser d'être un suprémaciste blanc xénophobe. Tu comprends, ça change complètement la donne. Écoute, quand tu parles,
c'est surtout que tu l'as toi-même relevé. C'est surtout que dans le cas d'Adib, c'est tellement factuellement faux que ça avait la dimension d'un pachyderme. Tu as toi-même fait une longue, longue liste et des 500 mots d'une chronique ne te suffisaient pas pour montrer tous les gens issus de ce qu'on appelle la diversité qui sont présents dans nos médias. Hey, ça va faire.
Et ma liste n'était pas exhaustive, hein?
Bien sûr.
Ma liste était loin d'être exhaustive parce que, écoute, en plus, c'est amusant parce que depuis cette chronique-là, il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant, mais Sophie, t'as oublié Bill Moreau, t'as oublié Léo Kalinda, t'as oublié Stanley Péan, t'as oublié Nadine Giraud, t'as oublié Lionel Carman, t'as oublié plein de monde. Alors, je pense que je devrais écrire une deuxième chronique pour rappeler tous ces noms-là. Écoute, je trouve que c'est très important quand on dit, quand on parle en ce moment des gens qui font le procès du Québec, de revenir sur le cas d'Amnesty International. Amnesty International qui, depuis quelques jours, fait campagne sur les médias sociaux, à la radio, à la télé, une campagne qu'ils appellent une campagne contre l'ignorance et une campagne pour dénoncer le racisme systémique. Alors, je veux te faire écouter, parce que peut-être tu l'as pas encore entendu, la publicité radio de Amnesty International, puis je veux que tu la commentes après.
Lopez.
Vas-y.
C'est un nom.
Tran.
C'est un nom.
Malek.
Encore un nom.
Traoré.
Toujours un nom.
Yang.
Non.
Ndiaye.
Non. Ce ne sont que des noms. Mais ici, on leur dit non.
Mais ici, on leur dit non. Et il y a une autre publicité où c'est une candidate, une femme qui postule pour un emploi, un monsieur qui cherche un appartement, et les deux regardent la caméra, puis là, t'as des violons derrière, et ils disent « Non, 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 ne m'ignorez pas, tout le monde le fait. » Mais c'est quoi? De quel Québec on parle ici, Joseph?
Je ne sais pas de quel Québec on parle, mais je sais parfaitement de quelle mauvaise foi et de quelle malhonnêteté absolue on parle. Et je crois qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, Sophie, sur ces organismes nés autour d'une cause bien précise, mais qui, au fil des années, ont été en quelque sorte kidnappés et détournés et servent aujourd'hui à des fins qui ne sont plus du tout celles pour lesquelles ils ont été créés. Amnesty International a été créé pour venir à la rescousse des prisonniers politiques.
Absolument. Je me rappelle, tu te souviens, au début, on envoyait des lettres, puis Amnesty International nous envoyait des modèles de lettres, puis on écrivait pour demander la libération de gens qui étaient dans des geôles, dans les pays les plus obscurs, les pires dictatures sanguinaires. Voilà. C'était ça le rôle d'Amnesty.
On militait contre l'apartheid en Afrique du Sud, contre le régime Pinochet au Chili, contre les gens dans les goulags de l'Union soviétique. Et maintenant, tout cela a été un peu mis de côté et on reprend, au fond, tous les clichés, tous les poncifs de la nouvelle culture woke. On pourrait, d'une certaine façon, dire un peu la même chose de la Commission des droits de la personne, de la Ligue des droits et libertés, c'est-à-dire des organismes qui, au fond, se drapent dans la vertu pour faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce pourquoi ils ont été créés. Et je dois te dire, Sophie, te dire que je n'avais pas écouté cette pub, mais j'ai été faire une petite visite sur le site d'Amnesty International, et quand j'ai vu, par exemple, que ces dernières années, quelqu'un avec qui j'ai eu mes désaccords, mais quelqu'un que je respecte, Françoise David, a prêté son nom et sa crédibilité à certaines de leurs dernières croisades, j'ai été déçu, attristé. J'attendais autre chose d'elle, mais enfin, bon, bref. Ah non, écoute, c'est une mauvaise foi absolue. Et puis, tu sais, quand je regarde, par exemple, Amnesty International, dont la section canadienne fait partie des 18 plaignants en cours
contre la loi 21,
alors là, tu comprends que des fanatiques religieux, prisonniers de leur dogme, ne puissent supporter la moindre contrainte, évidemment, ça me heurte profondément, mais que veux-tu, un fanatique, c'est un fanatique. Mais que ces gens-là, réussissent à embrigader comme compagnon de route Amnesty International ou, presque aussi choquant, un syndicat d'enseignants,
la FAE,
dont on sait maintenant que la majorité ne pense pas comme son exécutif, alors là, évidemment, c'est... Il y a tellement de choses qui ne tournent plus rond au pays du Québec, Sophie, qu'on ne sait plus par où commencer. Des fois, on a l'impression d'un divorce avec le bon sens. et on se demande finalement, enfin, ce n'est qu'un pari. Est-ce que dans cette majorité silencieuse, de moins en moins silencieuse au Québec, est-ce qu'il y a encore des ressorts? Est-ce qu'il reste un minimum de dignité pour dire « ça suffit » Et tu sais, une série de tests s'en viennent. Par exemple, j'ai bien hâte de voir la politique linguistique promise par M. Legault. On verra. Mais tu sais, à un moment donné, jusqu'où tu tends l'autre joue? Jusqu'à ne plus avoir de tête?
Es-tu découragé, Joseph, par le Québec que t'aimes tant?
Oui. J'ai mes moments de découragement. J'ai mes moments de découragement, je me défoule en chroniquant, je m'évade en regardant des vieux films, et tu sais, j'en parlais l'autre jour avec des proches, c'est probablement révélateur. La plupart des films que je regarde ces temps-ci sont des films qui se passent dans l'ancien temps, des films à costume. J'ai besoin d'évasion, tu sais, je regarde Anna Karenine, puis Guerre et Paix, puis j'ai des vieux trucs.
Oui. On peut toujours compter sur les Russes pour nous sortir de... Parce qu'il y a tellement de parallèles, de toute façon, entre le peuple russe et le nôtre. Ben, peut-être pas à l'époque de Poutine, mais en tout cas, il y a en effet plein d'inspiration à prendre là-bas. Écoute, je veux revenir sur ta chronique de ce matin, où tu t'en prends à tous ces délires-là d'accusations de phobie à droite, à gauche. C'est rendu, tu t'appelles ça, je pense, le festival de l'hypocrisie. Parle-nous un petit peu de ça, là, parce que c'est rendu très loin, quand même.
Ben, écoute, c'est le festival de l'hypocrisie, car, évidemment, on part d'une base qu'il est difficile de contester. Des groupes veulent le respect. Alors évidemment, moi aussi, je veux te respecter. Toi aussi, tu veux te respecter. Mais quand on regarde, évidemment, ce qui fait pousser les hauts cris, des fois, évidemment, on exagère. Grossophobie, transphobie, patati patata. Mais, là où il y a de l'hypocrisie, c'est qu'en fait, derrière ces appels à la vertu, il y a souvent un calcul tout à fait intéressé. Et là, évidemment, je donne des exemples tirés du sport, tirés du milieu artistique, tirés du milieu télévisuel, tirés du milieu universitaire, où en fait, quand on creuse, on se rend compte que les gens utilisent la posture de victime pour, au fond, avancer des pions très calculés sur l'échiquier de l'ascenseur social. Ils veulent, en fait, des jobs réservés. Ils veulent des quotas, ou dans le milieu sportif, évidemment. Écoute, Sophie, c'est rendu que dans le rugby, il a fallu interdire que les transgenres jouent avec des filles, parce qu'évidemment, ils gardent leur charge de testostérone et pèsent plusieurs kilos de plus que les femmes, et donc ça devenait dangereux. Ça, c'est évidemment un cas extrême. Mais tu vois, dans le monde universitaire, par exemple, ce qu'on veut, c'est des jobs. Et dans le monde artistique, c'est pas à toi que j'apprendrai ça. Donc, au fond, encore une fois, c'est la récupération d'une cause pour, au fond, des motifs très personnels, très matérialiste, très égoïste, très professionnel. Et l'hypocrisie, moi, ça me pue au nez.
Ça te pue au nez. Écoute, j'ai une bonne histoire pour toi. Je l'ai racontée ce matin à Pierre Nantel et je te la raconte à mon tour. À l'UQAM, il y a une professeure de géographie, puis je veux même pas donner son nom parce que je veux pas alimenter les braises, je veux pas souffler sous les braises de l'intolérance des étudiants, de certains étudiants de l'UQAM. Donc, une professeure de géographie qui envoie une petite note à ses étudiants et les dates de tombée pour les travaux à remettre, etc. Tu sais, des petites indications comme ça. Et elle finit en disant, bon. Moi, je suis féministe, engagée, mais je me demande à quel point utiliser des mots comme « elle » et « yel » à la place de « il » et « elle », à quel point c'est utile à la conversation. Et elle termine en disant « je comprends pas réellement où on veut en venir avec de telles expressions qui sont inexistantes ». Et elle termine en disant « c'est juste une petite pensée en fin de session ». C'est tout à fait anodin, tout à fait respectueux, fait juste dire vraiment, au lieu de dire « il »,« elle », dire yel ou elle, est-ce que c'est vraiment pertinent?
J'ai vu le lexique de la littérature inclusive.
Oui, c'est ça, j'ai écrit toute une chronique là-dessus. Bon, alors, moi je trouve ça tout à fait anodin comme note de la prof. Mais il y a un site de regroupement d'étudiants de l'UQAM qui disent si cette femme-là est votre prof, on vous encourage à faire une plainte formelle à l'UQAM. Pour cause de transphobie, de queerphobie et d'instrumentalisation du féminisme. Et un petit peu plus loin, on met un lien avec sa fiche dans le répertoire des professeurs de l'UQAM, avec son adresse Internet et son numéro de téléphone. Écoute, on est rendu là. D'après moi, ça va faire une autre histoire comme à l'Université d'Ottawa, à moins que, évidemment, l'UQAM se tienne debout, ce qui n'a pas été le cas à Ottawa. Mais c'est quand même assez hallucinant.
C'est hallucinant, c'est effrayant. Et en fait, tu sais, je disais tout à l'heure que ça interpelle nos propres responsabilités. Si ces gens-là sont si prompts sur la cyberintimidation, c'est qu'ils savent que ça marche. Tu vois, là, évidemment, il faudra voir la réaction des autorités. Dans le cas de l'infortuné chargé de cours à l'Université d'Ottawa, ça a commencé par une étudiante.
Voilà, Verouchka, lieutenant Duval.
Dans le cas du retrait de la petite vie Radio-Canada, il a fallu une plainte.
Tu as tout à fait raison de faire ce parallèle.
Alors, évidemment, si les institutions ont besoin de si peu pour remplir leur couche, tu comprends qu'on fait le beau jeu de ces gens qui se disent une petite poussée et tout l'édifice va s'effondrer.
Ouais. C'est pas reluisant tout ça, hein?
C'est pas
encourageant. Puis toi qui es universitaire, qui es professeur à l'université, c'est aussi assez inquiétant. D'ailleurs, écoute, je vais prendre juste encore une dernière minute. Le recteur de l'Université d'Ottawa, M. Frémont, qui, pour réagir à toute cette controverse-là, sur le fameux mot en haine, décide de on va mettre sur pied un comité sur le racisme. Donc, en faisant ça, il est en train de dire que la cause de Verushka, lieutenant Duval, c'était une cause de racisme. C'était un dossier qui avait à voir avec le racisme, alors que ça avait à voir avec tout sauf le racisme. C'est incroyable. Exactement. Comme réaction quand même.
Alors là, ça pose évidemment une question. Est-ce que le recteur Frémont hurle avec les loups, se met du côté de la majorité pour essayer de sauver sa peau, ou est-ce qu'il est lui-même un convaincu de cette nouvelle idéologie?
Mais bonne question, que, évidemment, Joseph.
Voilà, tu comprends qu'à partir du moment où le message vient d'en haut, eh bien, ça va marginaliser encore plus les 34 signataires qui ont pris la défense de Mme Verushka, lieutenant Duval. Et je dois te dire, Sophie, je dois te dire que, sous couvert de l'anonymat, j'ai des collègues de l'Université d'Ottawa qui me disent « Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée à quel point le climat ici est toxique ». Et ces gens-là me disent des choses absolument invraisemblables, mais évidemment, ils craignent, et on peut le comprendre pour leur situation, là. Non, les gens n'ont pas idée de ce qui se passe dans le monde universitaire, et, comme je le dis toujours, le malheur, Sophie, c'est que les universités sont en quelque sorte les laboratoires, les éprouvettes de la société de demain. C'est généralement dans ces milieux-là que commencent les délires.
Ouais, et puis écoute, moi mon fils a seulement 13 ans, dans 5 ans théoriquement il va aller à l'université et j'ai pas l'impression que dans 5 ans ça va s'être amélioré. Puis en plus, pauvre petit pou, écoute, le fils de Richard Martineau puis de Sophie Durocher, deux Belzébuth là, ça va pas être évident pour lui. Je pense que je vais l'envoyer à l'université à l'étranger, ça va être peut-être plus simple pour lui. Ouais, Joseph, toujours intéressant de te parler, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, puis écoute, on se retrouve jeudi prochain. Merci Joseph.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, dans la famille Durocher-Martineau, dans le temps des fêtes, c'est vraiment une tradition. C'est un moment important où on peut aller en famille au cinéma. Ben, cette année, impossible, les cinémas sont fermés et on sait même pas exactement à quelle date ils vont rouvrir. Pourtant, pendant ce temps-là, en France, où il y a énormément de cas de COVID, les cinémas vont rouvrir le 15 décembre, justement pour permettre aux gens d'aller au cinéma dans le temps des fêtes. Pourquoi on ferait pas la même chose au Québec? On va en parler avec Vincent Guzzo, qui est président des cinémas Guzzo et Dragon à l'émission Dragon's Den diffusée à CBC. Vincent, bonjour!
Comment ça va?
Ben moi, ça va bien. On se connaît, on est amis dans la vie de tous les jours, Vincent, donc c'est pour ça que je te tutoie. Es-tu à bout? Es-tu tanné que tes cinémas restent fermés?
Non seulement je suis tanné, je suis de plus en plus déçu de l'incohérence du processus de comment on prend des décisions. Puis des fois, je suis presque arrivé, là, il y a des soirs que je parle à moi-même, puis je suis arrivé au point où je me demande si les autorités québécoises ont la compétence et ont l'habilité de s'occuper de son monde. On parle de la nation québécoise, mais est-ce qu'on a vraiment la capacité, est-ce qu'on a les chefs politiques qui sont capables de s'occuper de nous? On voit le désastre au niveau de la santé, mais on voit même des décisions arbitraires, non fondées, non justifiées. On n'est pas transparent.
Comme quoi, par exemple? Donne-moi des exemples concrets. Vincent.
Je vais te donner un exemple très concret. Le vendredi, avant qu'on a fermé les cinémas, le lundi, j'oublie, en septembre, là, à la fin septembre, le vendredi, le docteur Arruda se fait poser une question en anglais et sa réponse, c'était il est plus sécuritaire d'aller dans un cinéma avec 250 personnes dans la salle de cinéma que d'être à la maison 10 personnes parce que, puis là, il explique, système d'aération, etc., distanciation, Puis le lundi, qu'est-ce qu'on fait? On décide qu'on va fermer les cinémas parce que d'une question de perception, peut-être, ou je sais pas quoi. Et quand on parle à la santé publique, je dois vous dire, tu sais, la première vague, mon gros beef, comme on dirait, c'était contre la santé publique. Moi, je dois vous dire, là, deuxième vague, on est maintenant au mois de presque décembre. Moi, je pense que la santé publique, ils sont justifiés d'avoir fait des erreurs la première vague parce que personne ne se rappelait pas c'était quoi une pandémie, qu'est-ce qui allait arriver.
Oh oui, on savait pas. Oui.
Bon. Mais après le mois de juillet ou septembre, où on a opéré les salles de cinéma, on a eu zéro cas d'éclosion dans des cinémas. Là, tout d'un coup, la santé publique recommande à que les cinémas et les salles de spectacle restent ouvertes, les musées restent ouverts. Puis qu'est-ce qu'on fait? Le politique décide de faire totalement le contraire. Puis on le voit. On voit que le docteur Arruda ne parle plus. Tant qu'à dire un mensonge, j'ai dit, ben, m'a pas parlé. Et donc, puis là, ça a pris 3 jours pour justifier la fermeture des cinémas. Et on l'a vu. Il y a une couple de jours, on parle 4 jours. 24, 25, 26, 27. Là, on parle 2 des 4 jours seulement, on a le droit.
Mm-hmm. C'est comme... Oui, c'est ça. La politique change tout le temps. Puis non seulement ça, mais on est passé de 4 jours où on pouvait faire le party. Après, on se fait dire, ben non, faut juste faire 2 parties pendant les 4 jours où vous avez le droit de faire le party. Et à la même conférence de presse, Horacio Arruda dit, tant qu'à moi, je préfère que vous en fassiez juste un party pendant les 4 jours. Ben, annulez donc Noël un coup parti. Soyez clair, là, soyez transparent.
Mais la joke, c'est qu'on le sait, dès le premier moment de cette pandémie, la seule chose qui a été constante, là, c'est le fait que la nature humaine veut que quand on est à la maison, on se croit plus en sécurité, et parce qu'on connaît tout le monde, et on pense pas d'être aussi careful, comme on dirait.
Précautionneux.
Précautionneux avec notre distanciation, avec notre lavage des mains, puis tout ça. C'est chez nous. Écoute, je connais ma femme, je connais mes enfants. Mais on réalise pas que les membres de notre famille, quand ils sortent de la maison, puis ils vont travailler ou ils vont à l'école, ils fréquentent d'autres personnes. Donc, quand on est dans une salle de cinéma ou quand on est à l'extérieur, on fait attention. Premièrement, nous, on fait attention. Deuxièmement, il y a un commerçant qui le sait qu'il va se faire taper ses mains s'il ne fait pas attention. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait faire son monde qui s'organise pour que le monde, les clients font attention. Vous devez comprendre que qu'est-ce qui est comique, c'est que les personnes qui sont les commerçants qu'on peut facilement identifier, les cinémas Guzzo, les gyms, tout ça, là, eux, on les a fermés. Donc, vous savez que si moi, je respecte pas les règles, je suis le premier à me faire crucifier, puis on sait c'est qui, là, on pointe le doigt, puis vite.
Mais oui.
Quand Costco respecte pas les règles, ou quand Walmart respecte pas les règles, on pointe le doigt à qui? C'est une grosse corporation, ça tombe dans le néant, là, la reproche. Mais eux, en attendant, comme je vous dis, c'est farfelu de me dire, parce que quand quelqu'un le dit sur les médias sociaux, c'est une affaire, mais qu'un premier ministre du Québec dise, quand on va faire de l'épicerie, c'est 15 minutes, c'est pas 2 heures comme dans un cinéma. Mais je m'excuse, monsieur le premier ministre, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de l'épicerie, parce que moi, ça m'a pris 1 heure pour rentrer dans un Costco, une autre heure pour faire une heure et demie pour faire mon épicerie, puis une autre heure pour payer. Donc, avec les line-up qu'il y avait là, je suis resté une demi-journée quasiment là-dedans. Là, t'sais.
Ben là, faut exagérer non plus, Vincent. Mais je comprends ton point. C'est aussi non, qu'on a vu tout.
C'est Costco, là. C'est grand, là, Costco, Sophie.
Ouais, mais tu peux aller faire ton épicerie dans le quartier italien, aller chez Milano, puis ça te prendra pas une demi-journée, Vincent. Mais je comprends l'idée aussi. C'est une question de proximité. Puis c'est sûr que je considère que c'est plus sécuritaire d'aller au cinéma avec toutes les mesures qui sont mises en place que d'aller acheter un contenant de 92 onces de ketchup dans une grande surface. Ça, on comprend le principe. Écoute, moi, je regarde ce qui se fait en France, où donc les cinémas étaient fermés. Le gouvernement français annonce que le 15 décembre, on va pouvoir rouvrir les cinémas, les musées, les salles de spectacle. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il va y avoir un couvre-feu. Donc, à partir de 21 heures, les gens n'ont pas le droit de circuler, sauf s'ils vont au cinéma et qui gardent leur billet de cinéma, qui montrent qu'il y avait bel et bien une séance, mettons, qui commençait à 8 heures, puis qui finit à 10 heures, ben là, ils ont le droit. Et moi, je me dis, ben pourquoi on fait pas la même chose au Québec? Pourquoi on met pas, à la rigueur, un couvre-feu, mais qu'on ouvre les salles de spectacle, qu'on ouvre les musées, qu'on ouvre les cinémas? C'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui. Ben, je me disais, voilà une bonne idée. Pourquoi on n'importe pas cette bonne idée-là au Québec?
Donc, on l'a proposé pour le mois de décembre. Nous, on l'a proposé et on nous a dit, ben, pour l'instant, on est juste en train de regarder de vous ouvrir tout court, sans nouveau confinement. Écoutez, vous réalisez qu'un couvre-feu durant la relâche scolaire, ça a zéro impact négatif sur une opération, parce que les jeunes peuvent aller au cinéma à 10 heures, 11 heures, 1 heure, 3 heures, 5 heures, 7 heures. Donc, c'est où un couvre-feu devient un problème, c'est durant l'année scolaire, où il y a tout le monde travaille, et puis donc, c'est juste une séance qu'on a. Mais, durant la relâche de l'été, de Noël, il faut se poser la question, si c'est pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire au Québec? C'est un confinement déguisé. Parce qu'on dit au monde, vous n'allez pas travailler parce qu'on est en relâche de Noël, vous n'allez pas aller au cinéma, restaurant, rien de ça, vous n'avez pas le droit d'être en famille plus qu'un jour, deux jours, dépendamment quoi. Donc, vous venez de me reconfiner, qu'on le dise, dites-le le mot, vous avez reconfiné la population. Donc, moi, je serais prêt à le faire, on l'a proposé, mais comme je te dis, la réponse de la santé publique, c'était de nous dire, monsieur Goudzou, vous en faites pas pour ça, nous, on veut vous ouvrir sans conditions additionnelles, plus que qu'est-ce qu'on avait en juillet ou septembre. Donc,
mais quand,
votre couvre-feu,
quand ils vont vous ouvrir? Que...
Ah oui, mais c'est quand... ça le problème, c'est que la santé publique veut nous ouvrir, c'est le bureau du premier ministre qui veut pas.
T'es donc, sérieux? Tu m'affirmes aujourd'hui clairement que la santé publique serait prête à ouvrir les cinémas, mais que c'est le côté politique qui veut pas.
Exactement. Et la preuve de ça, c'est on le voit à différents niveaux. On a pas de sortie publique des infirmières, ça fait des mois, sauf pour récemment, mais c'est plus pour des conditions salariales. Mais il n'y a pas vraiment de dénonciation au niveau du débordement. On veut pas partager le taux de fréquentation cette année versus l'année passée. Il n'y a aucune donnée qu'on veut partager, à part celle-là de nous parler d'un pacte moral, puis de nous parler un petit peu comme si on est des ados. Je m'excuse, là, j'ai 51 ans, je ne suis pas un ado, je vais pas faire un pacte moral avec quelqu'un qui me parle comme si je suis un ado, puis il ne veut pas me donner l'information que j'ai de besoin pour vraiment faire l'analyse. Il faut qu'on se comprenne bien. À la première vague, là, j'ai fait mon commentaire que j'étais pas d'accord, mais j'ai suivi. J'ai compris, puis j'ai dit, laisse-moi regarder s'ils ont raison. Plus tard, j'ai la maturité pour dire, écoute, on a fait des erreurs, mais on a appris de nos erreurs. Mm-hmm. La vérité, c'est que ce deuxième confinement ici me démontre qu'on n'a rien appris de notre premier confinement. Parce que on est en train de faire pire qu'avant. On est en train vraiment de mentir au monde et pas vouloir dire le mot. On nous a confinés. Nous sommes sous confinement depuis le mois d'octobre et durant le temps de Noël, ça va être vraiment dur parce qu'il va y avoir des jours là où les magasins vont être fermés aussi. Là.
C'est ça.
Le premier, le deux, les magasins, ils sont fermés. Donc, on va être à la maison. On va quand même se dire, Sophie, que quand un premier ministre nous dit la veille du jour de l'an, mais vous regarderez le bye-bye. Ça fait dur, ça. Moi, je trouve ça un petit peu prétentieux. Moi, je trouve ça. Je trouve ça raide, là, pour quelqu'un qui devrait avoir de l'empathie pour le confinement qui vient d'imposer à tout le monde.
Et
le
c'est pas cinéma, bien excitant. Oui.
Et, exactement.
Oui,
non, mais... Puis le cinéma a toujours été un point de référence de normalité ou de défoulement psychologique. T'sais, on allait voir un film pour oublier nos problèmes quotidiens. Mais c'est la première chose qu'on a bloquée. Et c'est ça. Moi, je pense qu'on est en train de se mettre dans une position extrêmement compliqué et qui va perdurer pour bien longtemps au niveau de la santé mentale. Et puis ça, c'est différent parce que dans la tête peut-être du gouvernement, c'est subjectif un problème de santé mentale versus un rhume, c'est plus clair ou le COVID, c'est beaucoup plus clair. Là. C'est scientifiquement testé, mettons. Et donc, c'est... Moi, c'est des problèmes. Comme je vous dis, je fais mes sorties quand j'ai le feu.
Oui, alors Vincent, là, pour l'instant, on a comme l'impression que l'horizon, c'est un retour peut-être à des ouvertures au mois de janvier. Est-ce que toi, dans tes différents cinémas, tu te prépares en fonction d'une date qui serait le 11 janvier ou tu peux absolument rien faire tant que le gouvernement a pas mis des balises claires? Comment t'as du monde là qui travaille pas en ce moment, alors il faut que tu prévoies les affaires. C'est quoi ton échéancier de retour, d'ouverture?
Donc nous, Sophie, qu'est-ce qu'on a fait? La première vague, on a gardé tout notre personnel, on a fait du grand ménage de printemps, on a fait tout ça. Cette fois ici, on a mis tout le monde à pied, sauf pour nos cadres qu'on a gardés. Et eux font le tour quotidien de ces cinémas, puis s'occupent, puis s'assurent que le cinéma est encore là sans qu'il ait tombé, là, parce que plein de choses peuvent arriver quand une bâtisse
est l'entretien de base.
Mais exactement. Mais nous, présentement, disons comme ça, là. On nous a donné une première droite butoir, on nous a donné une deuxième, puis là, on nous donne une troisième. Il y a une expression qui dit « Tu me niaises une fois, shame on you. Tu me niaises deux fois, c'est ma faute à moi. » Donc, là, moi, je me dis, tu sais quoi, on m'a assez niaisé. Je vais attendre qu'on me donne une vraie date de réouverture, puis après, je vais me mettre à dépenser de l'argent pour réouvrir, puis remettre toute la machine en marche. Parce que à me préparer comme un enfant, à m'exciter que la date butoir s'en vient puis on va être prêt, là, c'est farfelu. Donc, moi, présentement, tu remarqueras sur mes médias sociaux, j'avais un paquet de films que je devais sortir en décembre, dont un est un film québécois, une comédie à sketch qui s'appelle « Livrer chez soi sans contact ». Et ce film-là, maintenant, je le promouvois comme une sortie en février 2021. Donc, pour la date du 11, j'y lance, tiens, on va faire comme ça, je lance un challenge au premier ministre, là. Moi, je pense que c'est pas vrai qu'il va me réouvrir le 11 janvier. Donc, on va se voir au mois de février. Qui me démontre que j'ai tort puis qui me donne l'autorisation d'ouvrir vraiment le 11 janvier. Mais moi, j'y crois pas. Pour moi, je regarde le mois de février. C'est cette date-là que moi, je me dis, on va être plus prêt. Puis il faut
la Saint-Valentin.
Se rappeler, Sophie. Et, ben, il faut aussi, ouais, la Saint-Valentin, mais il faut aussi se rappeler que si on n'a pas de film, c'est pas vrai qu'on va réouvrir en jouant des vieux films du mois de janvier, là. Donc,
non, c'est sûr.
Il faut quand même donner
Vincent,
le temps.
Ouais, j'ai une question pour toi. T'évalues à combien financièrement les pertes pour les cinémas Guzzo depuis, mettons, le mois de mars, là, depuis la fermeture, le premier confinement?
Ah, ça va à au-delà $1 million par mois.
En pertes? Au-delà d'$1 million
non,
par mois?
Non, c'est pas de perte, c'est de qu'est-ce qu'on appellerait en anglais du cash flow burn, de l'argent sorti de mes poches pour couvrir le fait qu'on est fermé ou qu'on a opéré à perte durant juillet ou septembre. Dans le sens que le manque à gagner
c'est
dans les 30 millions. OK, non. Le manque à gagner, c'est dans les 30 millions. Mais c'est 1 million par mois de perte qu'on a dû sortir, payer nos hypothèques, payer qu'est-ce qu'on doit payer. Donc, c'est quand même...
Est-ce que le gouvernement t'aide? Est-ce que le gouvernement, parce que le gouvernement avait promis de l'argent pour le domaine de la restauration, il y a plein de restaurateurs qui sont sortis récemment pour dire, on n'a jamais vu la couleur de cet argent-là. Est-ce que dans le milieu des cinémas, il y a de l'argent qui vient ou qui viendrait du gouvernement ou pas?
Mais c'est là qu'est venu mon commentaire tantôt quand j'ai dit « Est-ce que le Québec est vraiment capable de s'occuper de son monde? » Dans le sens que nous, les cinémas, on a reçu de l'argent juste du fédéral. Le provincial nous a donné rien. Et là, on est en train d'essayer de voir le fameux programme du 15 000 $ par location, par emplacement. Comment on peut l'appliquer au cinéma? Donc, théoriquement, le gouvernement québécois pourrait me donner un prêt pardonné d'à peu près $135 000 par mois pour l'ensemble de mes emplacements. Et ça, mais jusqu'à date, j'ai pas vu une scène. Là. J'ai rien, pas de déboursé, rien. Versus au fédéral, nonobstant le fait que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le Parti libéral fédéral, mais reste le fait qu'au moins on a eu des subventions salariales qui ont été payées, et donc ça nous a permis de payer nos employés quand même. Et tout ça. Puis là, ils ont annoncé une subvention au loyer. Exactement.
Bon,
c'est pas
Vincent,
le plein montant, mais c'est intéressant.
Vincent, je te cacherai pas, on a vraiment hâte de retourner au cinéma. On a vraiment hâte de manger du popcorn beaucoup trop cher et de se... de s'amuser.
Mais il est bon, hein, mon. Il est bon, c'est pour ça qu'il est cher, non?
Ouais, mais tes hot dogs sont bons. Tes hot dogs sont bons. Et puis, d'aller au restaurant à côté aussi pour manger des bonnes pâtes après. Vincent Guzzo, merci beaucoup. Puis, bon, on retient ça quand même, d'énormes pertes financières, dans toutes sortes de domaines, mais aussi dans le domaine des cinémas. Merci beaucoup, Vincent Guzzo, donc, qui est président des cinémas Guzzo et Dragon à l'émission Dragon's Den diffusée à CBC. Merci, Vincent.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
On connaît bien sûr Kim Gingras comme danseuse professionnelle. Elle a dansé avec Beyoncé, J-Lo, Justin Timberlake, Madonna, entre autres. Mais Kim Gingras, ces temps-ci, est surtout ambassadrice de la semaine Le Poids sans commentaire pour nous sensibiliser, tout le monde, mais surtout les jeunes, aux commentaires qu'on fait aux gens, en particulier aux femmes, sur leur physique. Kim Gingras est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Gingras.
Bonjour, ça va bien?
Ben, très bien. D'abord, première question, un peu groupie. Êtes-vous à Montréal en ce moment ou êtes-vous à Los Angeles avec les superstars de la planète?
Je suis à Montréal en ce moment. Donc, dès que la pandémie a commencé, je suis revenue ici. Je me sentais mieux autour de ma famille, du monde que j'aime et tout.
D'accord. Alors, c'est ce qui a fait aussi, j'imagine que vous êtes porte-parole donc de cette semaine, Le Poids sans commentaire. Pourquoi vous avez accepté d'être porte-parole pour cette campagne-là, Madame Gingras?
Oui, c'est venu me chercher, leur mission, leur équipe. C'est vraiment une super belle équipe, mais en plus, un message en particulier chez des athlètes. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai vécu tout le long que je reçois encore là, tout le long de ma carrière. Des commentaires par rapport à mon apparence. Dès que j'embarque sur une scène, je m'apprête à danser ou j'arrive en audition, on me juge physiquement avant même de me voir danser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, malheureusement, est un peu la norme et est connu dans mon métier. Ça arrive même des fois qu'on n'a pas la chance de danser en audition, que quelqu'un vienne nous voir puis nous dise « Merci, tu peux partir. On sait que ça ne marchera pas. »
C'est pas drôle pour l'ego, ça?
Ouais, c'est ça, que ce soit mes courbes, ma grandeur, ma couleur de cheveux, quoi que ce soit. Donc, je comprends ce que ça fait puis les conséquences que ça peut avoir, des commentaires basés sur le poids et l'apparence.
D'accord. Mais en même temps, Madame Gingras, moi, j'aime bien faire l'avocat du diable. C'est que au niveau de professionnalisme où vous êtes rendu, que des gens qui font un casting, mettons, pour un groupe de danseurs, tu sais, je veux dire, ça se peut qu'ils préfèrent avoir une blonde plutôt qu'une rousse ou une fille plus mince versus une... Tu sais, je veux dire, il y a aussi une liberté créatrice de la part des gens de choisir... qui veulent avoir dans leur troupe. C'est comme, par exemple, quand on choisit un mannequin pour faire la une de son magazine, on peut choisir une mannequin qui a des yeux bleus plutôt que des yeux bruns, sans que ce soit nécessairement un rejet ou une discrimination. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ben oui, absolument. Non, c'est vrai, vous avez raison. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois... Kim, t'es trop petite parce que l'artiste est super grande, donc ça fait pas de sens visuellement sur la scène, tout ça. Donc oui, absolument, c'est quelque chose dans mon métier qu'il y a quand même l'opinion, comme vous dites, le visuel, la création derrière tout ça. Mais je pense que, tu sais, quand on parle de cette campagne, de cette semaine, ce qu'on veut faire, ou en tout cas, moi, ce que je cherche à faire, c'est de commencer à avoir cette discussion-là avec les gens par rapport à est-ce qu'on peut commenter autrement, est-ce qu'on peut prévenir, expliquer à la personne, comme par exemple dans mon cas, au lieu de me juste me dire t'es trop petite, est-ce qu'on peut venir expliquer le pourquoi derrière tout ça, ou si dans un autre contexte, est-ce qu'on peut peut-être miser sur autre chose que l'apparence, peut-être diminuer l'importance accordée au poids. Moi, j'ai pas vécu ça, mais je sais que les ballerines, tu sais, c'est beaucoup dans leur domaine, justement, quand tu es dans une compagnie, tu te fais peser chaque matin. Ma coéquipière, justement, qui est chef de projet d'équilibre, elle nageait. Donc, elle a beaucoup vécu ça aussi, de se faire peser chaque jour avant l'entraînement. Donc, il y a tout ce côté-là qu'on aimerait aborder comme sujet dans le fond, j'inviterais moi les gens à se remettre en question. Est-ce que je peux commenter autrement? Est-ce que je peux venir dire à quelqu'un que je les célèbre pour c'est écrit X, Y, Z, que ce soit des choses comme leur habileté, leur force, leurs efforts, et non « Wow, t'as perdu du poids, bravo ».
Oui, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, bon, vous, évidemment, vous êtes une adulte et puis, bon, vous évoluez dans un milieu qui est très compétitif, mais donc, il y a des commentaires qui vous pouvez le prendre en vous disant, bon, ben moi, j'ai la maturité qu'il faut pour faire face à ces commentaires-là. Mais quand on parle de jeunes de 12, ouais. 13, 14, 15 ans qui ont absolument pas la maturité, puis... Je veux dire, c'est pas normal non plus qu'il y ait une compétition, mettons, entre filles de 12 ans, comme il peut y en avoir pour quelqu'un qui fait carrière. C'est là que le bât blesse et c'est là qu'il faut parler aux jeunes pour leur dire, ben, arrêtez de vous entretuer avec des mots qui peuvent blesser, là. C'est là que ça peut faire très, très, très mal, ces commentaires-là.
Oui, absolument. Puis je pense que surtout en 2020, avec les réseaux sociaux à la portée de leurs mains, là, c'est vraiment quelque chose qui, tu sais, j'imaginais moi quand j'étais plus jeune, je veux dire, j'avais accès à un, deux, trois magazines peut-être, puis un poster dans ma chambre. Mais c'est pas mal tout, tandis qu'ils ont vraiment beaucoup plus dans leurs mains, sur leur cellulaire. Donc oui, c'est vraiment une conversation à avoir, je pense, entre amis ou de parents à enfants, ou dès qu'on est enseignant, enseignante, coach ou quoi que ce soit comme ça, qu'on a cette position-là. De peut-être parler de tout ça, tu sais, de la norme, de l'idéal, entre guillemets, qui est pas, qui représente 5% de la population, là, qui est ridicule de pas assez d'atteindre ça, de vraiment, dans le fond, venir chercher de meilleurs modèles pour eux, pour comprendre c'est quoi la diversité, puis moi, je suis où là-dedans, tu sais, de vraiment venir célébrer, dans le fond, l'unicité de chacun et de chacune.
Oui. En même temps, c'est intéressant parce que vous parlez des médias sociaux. Donc, évidemment, moi, ce matin, pour me préparer pour l'entrevue, je suis allée voir sur votre compte Instagram. Oui. Et je me suis demandé, ben, les photos de vous, vous êtes tout le temps belle. Vous, n'importe quel angle, n'importe quel... on a l'impression que vous vous levez le matin puis vous avez déjà l'air d'un pétard. C'est pas juste pour les autres, Kim, là. Mais... Je me suis demandé, est-ce que le fait que vous soyez justement porte-parole pour cet organisme-là, pour cette semaine-là, est-ce que ça vous a forcé aussi à porter un regard sur l'image que vous-même vous projetez sur les médias sociaux? Est-ce que c'est pas aussi un idéal, peut-être un modèle qui est difficile à atteindre pour peut-être des jeunes femmes qui vous regardent en disant « Moi, là, je serais jamais aussi belle que Kim Gingras ».
Moi, c'est ça, je reconnais mon privilège de rentrer plus dans la norme, justement, de l'idéal des magazines qui a été, tu sais, créé par la société qu'on essaie d'abolir un peu. Ça, je comprends, je l'accepte, puis je sais que, tu sais, que c'est le cas chez moi. Mais je suis quelqu'un qui, depuis, dans le fond, depuis que j'ai ma plateforme sur les réseaux sociaux, j'ai rapidement compris le poids que ça pouvait avoir, puis je cherchais vraiment à venir partager vraiment le beau et le moins beau aussi, dans le sens je suis quelqu'un qui est ouverte, qui va s'ouvrir à des dépressions, de l'anxiété que j'ai déjà fait, justement les mauvais commentaires peut-être que j'entends. T'sais, j'essaie de vraiment un peu montrer les deux côtés, non, voici ma vie parfaite, mais ça vient vraiment me chercher, surtout pour répondre à votre question. C'est sûr que moi, on a eu de plus en plus de discussions par rapport à tout ça depuis que j'ai accepté justement d'être ambassadrice pour cette semaine. Donc, j'en ai beaucoup appris, puis moi, je viens même me remettre en question par rapport à, parce que moi, j'ai un programme de mentorat pour des jeunes danseurs, danseuses qui aimeraient faire carrière en danse.
Ah, c'est super ça,
puis
oui.
Même la façon que... Oui, merci. Même la façon que j'aborde un sujet avec eux, ben tu sais, moi je parle beaucoup de confiance en soi, puis je veux vraiment développer ça avec eux. Je trouve que c'est très important. Mais moi, je me surprends même ces temps-ci à place de leur dire sur les réseaux sociaux, waouh, tu es belle, tu sais, dans le fond, dans le grand sens du mot, tu sais, t'es une belle personne, tout
je
ça.
Comprends.
Je me dis, ah non, je vais aller être plus spécifique. Je vais leur dire exactement, j'apprécie que tu es à l'heure, j'apprécie que tu portes attention aux détails, je trouve que tu apprends ta chorégraphie super rapidement, bravo. Tu viens venir vraiment célébrer des petits détails personnels et uniques à eux, je pense, sur lesquels, justement, eux peuvent miser aussi.
Oui, c'est ça. Puis de pas être constamment en train de faire des commentaires, même parce que des fois on a le réflexe de se dire bon, mais c'est un commentaire qui est positif, donc pourquoi la personne est. Oui, mais il reste que ça reste quand même un commentaire sur le physique. Donc on ramène, on réduit constamment donc la personne à son physique. Kim, parmi les outils qu'il y a pour cette fameuse semaine, donc le poids sans commentaire, parmi les outils, il y a une vidéo. On espère que beaucoup de gens vont la voir. On en écoute un petit extrait, Kim.
En danse, j'ai vécu beaucoup de pression pour atteindre un idéal de beauté. Quand notre corps et notre outil de travail, ou tout simplement lorsqu'on bouge, le poids et l'apparence peuvent devenir le centre d'attention et la cible de plusieurs types de commentaires.
Et vous, les filles, avez-vous déjà reçu ce type de commentaire?
Ouais, souvent.
Comme t'es pas assez forte pour descendre cette rampe-là, c'est vraiment blessant.
Ouais, ça devait être assez émouvant quand même de voir ces jeunes filles qui témoignaient des différentes façons dont des commentaires sur leur physique a pu les blesser.
Oui, vraiment, c'est deux belles jeunes filles vraiment de cœur, là, tu sais, passionnées, qui aiment ce qu'ils font, qui travaillent fort, puis de voir à quel point si on les regardait physiquement, qui sont très différentes, mais qui passent à travers des choses si similaires, tu sais, ça nous fait réaliser. On reçoit tout ce genre de commentaires-là, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment une belle discussion à avoir entre amis, c'est ça, que ce soit à l'école ou en studio de danse, etc.
Oui. Est-ce que c'est le genre de discussion que vous avez quand bon là évidemment avec le confinement vous êtes à Montréal, mais dans votre carrière, est-ce que c'est des choses dont entre danseuses vous parlez de ça? Est-ce que ben je sais pas, je vous imagine peut-être en train de partager une salade de quinoa avec avec Beyoncé puis de parler de la dictature des du physique, mais peut-être que je rêve là, je me fais un scénario dans ma tête, mais plus sérieusement, est-ce que c'est le genre de choses dont on parle dans le milieu ou c'est un peu tabou?
Je dirais pas que c'est tabou, mais je pense que chacun de nous, ben, tu sais, tout le monde, je pourrais dire, deal avec ça un peu différemment. Moi, avec mes amis très proches, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. J'ai plusieurs amis gars dans le milieu de la danse. Puis eux, justement, on est plusieurs Canadiens qui ont déménagé et Québécois qui ont déménagé à Los Angeles. Puis on l'a senti, cette pression-là, femme comme homme, d'avoir à tout d'un coup être de plus en plus en shape. Si je vais danser pour Jennifer Lopez en tant que gars, ça veut dire que j'enlève mon chandail, c'est certain. Elle a toujours des numéros où est-ce que les gars sont torse nu. Donc, il y a comme cette pression-là. Puis c'est un peu justement pourquoi, c'est une des raisons pourquoi j'ai créé mon programme de mentorat. Mon programme, on danse physiquement, on danse pas du tout. C'est vraiment des conversations, des exercices. Je leur pose des questions, je leur donne des défis qui sont tous par rapport aux outils qui entourent justement cette carrière-là, que moi, j'aurais aimé ça, justement, qu'on m'aborde comme
sujet
ou qu'on me demande comme question ou qu'on me fasse, tu sais, c'est ça. Donc, j'ai décidé de dans le fond, pour répondre à votre question, on le voit moins que j'aimerais, donc je me suis dit, je vais me partir un programme où est-ce qu'on peut de tout ça.
Kim, c'est toujours la bonne vieille phrase, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Kim, en terminant, vous qui avez tellement d'ascendants, vous êtes tellement un modèle pour plein de gens qui vous admirent, qui apprécient le travail, votre professionnalisme. Je vous laisse la parole, je vous donne une minute pour vous adresser aux gens, pour faire passer votre message concernant justement les commentaires qu'on fait sur le physique. Qu'est-ce que vous voudriez que les Québécois retiennent?
Moi, j'inviterais tout le monde à avoir une conversation cette semaine, que ce soit avec son copain, sa copine, un parent, un professeur sur le sujet, comment qu'on se sent, comment on aimerait ça se faire commenter, complimenter ou non. Et même, j'irais à pousser jusqu'à se le demander envers nous-mêmes, parce qu'on a toute cette petite voix-là interne qui peut être très méchante des fois. Hein? Kim, t'es trop grosse. Kim, tu réussiras pas. On va pas te choisir pour telle chose. Donc, on parlerait jamais comme ça à notre meilleure amie. Je nous invite à pratiquer, à changer cette façon de penser-là pour être de plus en plus positif, de se donner de l'amour à chaque jour, de s'arrêter dans le miroir le matin, là, puis si le monde nous écoute en ce moment, d'aller se voir dans le miroir, de se regarder et de dire « Kim, t'es capable » ou « Oui, tu le mérites ». Donc, un compliment personnel de soi à soi, je pense que ça fait, c'est tous les petits mini-gestes d'une journée qui peuvent faire une grande différence.
T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es belle, t'es bonne, t'es fine. Je me souviens plus c'était qui disait ça. Je me souviens, c'était Patricia Paquin ou quelque chose. En tout cas, merci beaucoup, Kim. Puis, en tout cas, vous êtes bonne, vous êtes fine. Puis, ben, si on a encore le droit de le dire, t'es belle.
Merci.
Merci beaucoup, Kim Gingras, qui est ambassadrice de la semaine Le Poids sans commentaire. Donc, vous allez retrouver ça sur les médias sociaux et c'est la Fondation Équilibre qui est derrière ça. Puis c'est comme ça que se termine notre émission d'aujourd'hui. Alors, je vous le dis à vous, les auditeurs puis les auditrices de Cube Radio, vous êtes beaux, vous êtes fins, puis vous êtes bons, puis on vous aime. Et parmi les gens qui sont beaux, bons et fins, il y a Sébastien Laperrière qui fait la mise en onde de la réalisation de l'émission, puis il y a Hugo Veilleux à la recherche. Et tous les trois, ben on vous dit merci beaucoup, puis à demain!
Cube Radio.